Toujours Charlie, le drame du mot toujours quand il veut dire encore, quand toujours là veut dire encore là, quand toujours libre veut dire encore libre, quand toujours Charlie veut dire en réalité encore Charlie parce qu'il est entendu que certains, voire beaucoup, ne le sont plus. Toujours, c'est une marque de la permanence dans le temps, de la constance, de la continuité, mais toujours ça peut aussi vouloir dire comme par le passé. Je l'aime toujours, ça peut vouloir dire je l'aime sans relâche éternellement, mais ça peut aussi vouloir dire dans le langage courant, je l'aime encore. C'est-à-dire que je l'aime quand ce n'est plus évident. Si on parle de l'esprit du 11 janvier, c'est possiblement un aveu d'échec, alors 3 ans plus tard, que de se dire toujours Charlie. Il faut bien que la grande fraternité se soit un peu effondrée pour qu'on en fasse un cri de rassemblement. Et avant même de se demander ce que veut dire Charlie, on pourrait réfléchir sur le sens du mot toujours, qui contient toutes les crispations, les tremblements, les oscillations d'aujourd'hui. Réfléchir sur le drame du mot toujours quand dans l'usage courant, il veut dire encore, encore Charlie.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Dans quel état d'esprit se trouve toujours mon invité d'aujourd'hui? Il a fêté l'année passée ses 45 ans de carrière. Après 5 ans d'absence, son album Respect sort vendredi, un disque inspiré par le 11 janvier, un disque de l'après-Charlie. Bonjour Yves Duteil.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. L'esprit Charlie, 3 ans après, à l'heure où votre disque donc s'apprête à sortir, il est encore là?
Moi je dirais plutôt l'esprit du 11 janvier. Parce que Charlie ou pas Charlie, c'était pas tellement le propos, la liberté d'expression, oui, mais surtout c'était le côté complètement informel et spontané de cette réunion de millions, d'un million et demi de gens qui n'avaient rien en commun mais qui partageaient quelque chose ce jour-là.
Vous y étiez ce jour-là?
Oui, j'y étais.
Qu'est-ce que vous avez vu?
J'ai vu une foule tellement compacte que le cortège ne pouvait plus avancer. On était à un moment donné arrêté et tout s'est passé au même endroit. Nous, on était boulevard Voltaire, et on a vu tout ce mouvement énorme se former, se figer. Il était impossible de rejoindre la place de la République. Et on est resté là, et on a vu des gens de toutes origines, des gens différents, aucune banderole, rien que des gens, des individus, qui avaient cette urgence d'être là. Et on avait cette urgence aussi.
Alors précisément, ce moment de communion, de solidarité, d'unité presque physique, comme vous le décrivez, est-ce qu'il vous paraît si unique ça, les Français, aujourd'hui, Yves Duteil?
Est-ce qu'il me paraît aussi unique?
Uni.
Uni.
Que cela?
Non, bien sûr, parce que c'est une union instantanée, et on ne peut pas faire de ça quelque chose d'instrumentalisé, un mouvement, une... À partir du moment où on théorise, c'est fini. Ce qui s'est passé ce jour-là nous restera gravé à jamais. Parce que c'était une telle émotion. On était quand même dans un grand danger à ce moment-là, et on n'a jamais eu la sensation d'un danger, curieusement. On était vraiment très exposés. C'était vraiment l'endroit idéal pour tuer un maximum de gens, si on veut vraiment aller jusqu'au bout.
Vous voulez dire qu'on l'a plus aujourd'hui, cette sensation du danger?
Non, pas plus, pas moins, mais ce jour-là, c'était quand même incroyable, parce que on se sentait sécurisés les uns par les autres. On était protégés les uns par les autres.
Et puis il y avait cette valeur du respect. Yves Duteil, évidemment, respect, c'est le titre de votre nouvel album, dont chacun peut avoir une interprétation différente. Pour vous, c'est quoi, le respect?
C'est le fondement de l'humanité. Et l'humanité, c'est pas forcément un peuple, c'est aussi un esprit, une attitude, être humain. Faire privilégier l'humain par rapport à l'ensemble, par rapport à toutes les lois, à toutes les règles, etc. Non, l'individu, tout ce qui est individuel nous concerne, c'est le regard de quelqu'un, c'est l'écoute, c'est l'ouverture, c'est on en parlait tout à l'heure avec Noël, c'est assez curieux.
Votre épouse?
Non, mon épouse, mon amoureuse. Et je crois qu'on est tous des pièces d'un puzzle, mais toutes les pièces sont différentes. Donc il faut trouver la pièce qui va à côté.
Quelles sont les choses qui ne vous inspirent aucun respect, celles qui vous insurgent, qui vous révoltent, qui vous mettent en colère, Yves Duteil?
Tout ce qui n'est pas respectable. Quand on parle de tolérance, en fait, on oublie de parler de l'intolérable. Parce que être tolérant, c'est pas tout tolérer. C'est tolérer ce qui est respectable. Et donc le respect, pour moi, c'est le fondement même de la relation humaine.
Ce qui est intéressant quand même, c'est que vos chansons ont toujours incarné un certain sens de l'engagement, une façon de parler d'aujourd'hui aussi. Une chanson, au fond, pour vous, c'est quoi, Yves? Quelle est la fonction d'une chanson?
C'est de dire les choses très difficiles à exprimer. Des choses invisibles, des choses indicibles, délicates,
nuancées. Et politiques aussi.
Ben oui, politiques. Poético-politiques. Parce que la façon de le dire dans une chanson va pas être la même façon que celle d'un journaliste, par exemple.
Mais qu'est-ce que ça dit, du coup, de la façon dont vous envisagez votre statut d'artiste? Pourquoi est-ce que vous êtes là, en réalité, Yves Duteil? Toujours là, toujours.
Et encore. Parce que moi, je crois que je suis je suis rebelle à toute forme d'embrigadement, d'idéologie. Je suis un homme libre. Donc je suis engagé, je suis un résistant. Résistant à tout ce qu'on voudrait que chacun soit, les uns vis-à-vis des autres, etc. J'échappe à toute définition et j'essaie de sortir justement de ce côté copier-coller. Donc rebelle, oui, complètement rebelle, et rebelle à l'autorité, sauf à celle de la compétence.
Et puis peut-être aussi la celle enfant que j'étais dans les années 80 qui se met à parler, peut-être pour qu'il y ait toujours quelqu'un pour nous prendre par la main.
Prendre un enfant par la main, pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi.
Pour nous ramener sur ce petit pont de naguère.
Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère, pour passer la rivière tout près de la maison. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit.
Pour prendre la défense des puces et des bêtes à bon Dieu.
Un jour, sur un piano, une puce élue domicile, elle posa son sac à dos, ses affaires de ville. Elle avait beaucoup voyagé, beaucoup sauté, beaucoup piqué, et pour ne pas qu'on la voie, sur une noire, elle s'installa.
Pour nous mettre du poil à gratter.
J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Pardonnez-moi, c'est très étrange, ça me prend là où ça veut. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu.
Et vous démange encore cette guitare?
Oui, absolument. Et de plus en plus, parce que j'ai eu la chance de passer de la guitare nylon à la guitare métal, ce qui a complètement renouvelé mon plaisir de la guitare.
Et qu'est-ce qui se passe quand elle vous démange? Vous la chatouillez ou vous la gratouillez?
Je change les cordes. Tout d'un coup, il y a des harmoniques qui se mettent à sortir et qui m'inspirent des nouveaux arpèges, des nouveaux renversements. Et il y a comme une forme de... C'est plus que de la fraternité avec ma guitare, c'est carrément une histoire d'amour.
Quand est-ce qu'elle a commencé à vous démanger, votre guitare d'ailleurs?
J'avais 15 ans. En fait, j'ai commencé au piano. Puis j'étais dans l'orchestre du lycée avec des copains et parmi ces copains, il y en avait un qui jouait de la guitare. Alors il jouait comme Django Reinhardt. Il avait une vélocité absolument hallucinante. Je regardais ça, j'étais fasciné. Mais surtout, sa guitare traînait dans un coin, je l'ai prise. Et j'ai commencé à essayer de jouer. Et mon premier truc, c'était les Beatles. C'était I Feel Fine, les Beatles. Et puis j'ai pris goût à ça et je me suis dit, c'est extraordinaire. Ça, on peut l'emmener quand on va chez des copains. Le piano, non.
Les Beatles, donc, jamais de punk? Yves Duteil, c'était l'époque aussi.
Non, ça, j'ai jamais été attiré par ça, mais bon, je pense qu'on a chacun sa tasse de thé, musicalement parlant.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant chez vous, et c'est pour ça que je vous parle de punk, un peu par provocation, dans votre musique et depuis toujours, c'est le parti pris d'une certaine douceur, quand même, d'une certaine bienveillance. Ça a pu vous attirer un certain nombre de reproches, voire de moqueries. Pourquoi est-ce que la bienveillance dérange tant, à votre avis?
Parce que vous avez exactement dit la différence entre la douceur, la gentillesse, etc., et la bienveillance. La bienveillance, c'est quelque chose de très fort. C'est volontaire, c'est pas du tout un côté mou, comme le côté, entre guillemets, gentil, quoi. Et la douceur, pour moi, c'est une force intime.
Un engagement de la douceur, alors?
Un bébé qui vient au monde, il a pas de douceur autour de lui, il a pas de respect, il a pas de bienveillance, il meurt. Alors, ça veut dire que cette bienveillance-là, elle est indispensable, comme l'oxygène que l'on respire.
Tu sais qu'en vrai, vous n'êtes pas seulement toujours encore gentil. Il y a des choses qui vous taquinent. La chose la plus vilaine que vous ayez jamais faite de votre vie, Yves Duteil. La chose sur laquelle vous pourriez écrire une chanson pour faire votre mea culpa, ce serait quoi?
J'ai la guitare qui me démange.
Ah vraiment?
J'ai fait souffrir des heures et des heures tous les équipages d'Air France qui, au décollage et aux atterrissages, avaient cette chanson. Et je l'ai tellement eue dans la tête que je comprends qu'ils en aient eu par-dessus la tête.
Celle qui est méchante comme la teigne et laide comme le péché, mauvaise comme pas deux dans cette émission, c'est pas la faute de lui infliger le son de morale remontrant ses châtiments corporel, c'est la culture, figurez-vous, et son incorrigible actualité. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 9 janvier?
Bienvenue au Louvre. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une agréable visite.
Les musées à la fête en 2017. Le Louvre, le Centre Pompidou et la Fondation Vuitton ont révélé hier les excellents chiffres de leurs fréquentations respectives pour l'année écoulée. Le Louvre, boosté par l'Expo Vermeer, a vu défiler 8,1 millions de visiteurs, soit 10% de plus qu'en 2016. Le Centre Pompidou, quant à lui, a vendu près de 3,3 millions de tickets, notamment grâce à David Hockney. Et enfin, la Fondation Vuitton enregistre 1,4 million d'entrées, en grande partie pour la collection Stukin. Allez là !
So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon.
Hope Ra, présidente, beaucoup commencent à l'espérer après le discours inspirant que la productrice télé, devenue icône populaire américaine, a donné dimanche lors de la cérémonie des Golden Globes, annonçant une aube nouvelle pour toutes les femmes. Si elle a toujours nié vouloir se lancer en politique, Oprah Winfrey semble déjà faire l'unanimité chez les artistes pour l'élection présidentielle de 2020, à l'image par exemple de Lady Gaga, qui assure déjà vouloir voter pour elle. Yes, she can.
Je ne pensais pas que ça allait bien ce soir, sinon j'aurais fait un effort vestimentaire et je m'en excuse. Mais ce soir, j'ai l'immense plaisir de nommer Valentine dans ses étoiles.
Étoile surprise, vendredi soir, la danseuse Valentine Colasanto, 28 ans, a été sacrée danseuse étoile à l'Opéra de Paris par Aurélie Dupont. La directrice de la danse de l'institution parisienne, en jean et pull décontracté, a annoncé la nomination inattendue, assure-t-elle, au terme d'une représentation du Don Quichotte de Rudolf Nureff, dans lequel Valentine Colasanto interprétait l'insoumise Kiltri. Jolie.
Pour moi aussi, la langue française est féminine, alors que la langue arabe, c'est une langue masculine pour moi.
Et en anglais, ça donne quoi ? The Perfect Nanny, c'est le titre choisi pour la version américaine de Chanson douce, le deuxième roman de Leila Slimani, prix Goncourt 2016, qui sort aujourd'hui dans les librairies outre-Atlantique, traduit par Sam Taylor. Ce drame infanticide et social est également attendu au Royaume-Uni dès jeudi. De l'autre côté de la Manche, il est titré Lullaby, traduction littérale de berceuse. Smart. Yves Dutheil, invité de Boomerang ce matin. Et comment ne pas vous donner la parole sur une autre actualité terrible, celle de la disparition de France Gall. Vous la connaissiez, France ?
Non, je l'ai rencontrée juste, je crois, une fois dans une émission de télévision.
Qu'est-ce qu'elle incarnait pour vous ?
Elle appelle l'image de Berger, évidemment. On se rend compte en écoutant ses chansons qu'on a vécu avec elle, qu'elle a vécu avec nous.
Oui.
Et ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point, d'abord la place des artistes, Johnny Hallyday, France Gall, ça rappelle Daniel Balavoine, ça ramène Michel Berger, et tous ces artistes nous ont tellement marqués profondément par leurs actions, mais aussi par leurs chansons, que ça nous donne un rôle véritable dans la société, et je crois que la culture, ça fait partie aussi de notre vécu et de notre histoire.
Elle est aussi l'incarnation, France Gall, d'un moment dans la chanson française, d'une époque, la vôtre, Yves Dutheil. Dans quelle époque, dans quelle France, justement, est-ce que vous avez l'impression d'avoir grandi, vous ?
Alors moi, j'ai grandi un peu à l'abri de tout ça, parce qu'on faisait pas le rapport entre la vie, la culture, etc. Moi, j'ai vécu au milieu des chansons, parce que mes parents écoutaient les chansons. Donc, j'ai vécu dans une bijouterie, au milieu de gens qui valorisaient des choses. Vous savez qu'il y a un jour, il m'est venu une idée étrange, c'est la valeur d'un homme. Moi, j'ai vécu dans l'or, dans les bijoux, dans les pierres précieuses, etc. La valeur d'un corps humain, constitué par la matière dont il est fait, c'est 10 euros. Et il y a des choses qui sont tellement plus précieuses que ça, que, à mon avis, ça donne forcément la notion de ce qui est précieux et de ce qui l'est moins dans la vie.
Qu'est-ce qui vaut 10 euros ?
Ben, l'eau, le dont le corps est fait, les sels minéraux, si on ajoute tout ça. Et si aujourd'hui on ne vaut pas plus, ça veut dire que la culture ne vaut pas cher. Et je crois que les choses qui valent le plus dans notre vie, c'est l'immatériel, c'est des choses qu'on ne peut pas toucher.
Alors précisément, qu'est-ce que ça voulait dire quand vous aviez 18 ans, se lancer dans la musique ? Quel genre de vie est-ce que vous vous imaginiez ?
C'était une rébellion, parce que théoriquement, je n'étais pas fait pour ça. Je devais passer mon bac, je devais devenir peut-être bijoutier.
Vous avez commencé par faire des études de droit, je crois aussi.
Du droit, sciences éco, voilà, j'étais à Assas. Et j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était pas mon truc. Alors mes parents m'ont mis dans une école de commerce, pour faire de la comptabilité. Et puis comme voilà, c'était pas non plus mon truc, ils savaient plus trop, et moi non plus. Et en fait, instinctivement, je suis revenu toujours et toujours et toujours, et encore, vers la musique.
Et pourtant, la musique avait une place dans votre famille. Je crois que votre mère jouait du piano. Vous en parlez dans une chanson qui s'appelle « Mon piano à 100 ans ». Quelle musicienne est-ce qu'elle était ?
Extraordinaire. Je voyais ses mains qui, elle avait une façon particulière de jouer les basses. Elle, et alors sa main allait de la gauche du clavier complètement au centre, puis de la gauche, puis au centre, puis à la gauche. Et la main droite, pendant ce temps-là, faisait les mélodies. Et j'étais fasciné par cette espèce d'envol de ses mains sur le clavier. Elle avait une facilité, une fluidité. Et je crois que c'est pour ça, elle m'a légué ça. Ce plaisir de la musique, ce bonheur de créer quelque chose d'étrange. Je savais pas trop de quoi c'était fait. Et elle m'a légué ça et les mots.
C'est une étrange chanson, Mon piano à 100 ans, Yves Dutheil. Elle est chargée de secrets, j'ai l'impression.
Elle est chargée d'images, c'est un film. C'est que le piano, j'ai un piano qui a réellement 100 ans. Et c'est ça qui m'a inspiré, en fait, le thème de la chanson. Mais le fait que ce piano ait 100 ans, ça veut dire qu'il a traversé des guerres, qu'il a traversé des histoires d'amour, des deuils, des enfants qui viennent chercher leur destin sur un clavier de piano. La façon dont on joue à quatre mains dans la vie pour trouver l'amour. Et tout ça, c'est effectivement des secrets. Et le piano est la malle au trésor, un peu de toutes ces harmonies, de ces contraires, de ces blanches, de ces noires, les touches comme la chanson de McCartney et qui disait le piano, les touches blanches et les touches noires jouent ensemble en harmonie parfaite. Mais Dieu, pourquoi pas nous? Et donc, c'est l'histoire de ce piano à travers les générations.
Et faire du piano, pour vous, c'est une façon de continuer à parler, continuer à dialoguer, y compris avec ceux qui ont disparu?
Oui, parce que la trace qu'on laisse, l'empreinte qu'on laisse, c'est quelque chose de très fort. Ce qui reste de nous, c'est l'amour qu'on a partagé, c'est les sentiments, c'est les émotions qu'on a réussi à capter et à écrire, et à photographier. Une chanson, c'est une photographie d'un sentiment. Quelque chose de très difficile à capter. Si j'écris pas la chanson au moment où elle vient, je l'écrirai plus jamais. Donc j'ai intérêt à être aux aguets de cette inspiration qui est en fait la traduction de ce qu'on a de plus précieux et de plus immatériel.
Alors on risque d'être ébloui par votre lumière, on va suivre vos conseils. Passeur de lumière, Yves Dutheil dans Boomerang sur France Inter. Mardi.
Je connais par bonheur un passeur de lumière, amoureux des étoiles et curieux de la terre, emporté par son rêve à des années-lumière. Un jour, il est parti jusqu'au seuil du désert pour suivre une comète qui lui faisait de l'œil à travers sa lunette. Ça me fait tant de bien de savoir qu'il existe des hommes tels que lui qui souffrent et qui résistent. Son regard bleu si clair, de sage et de marin, posé sur l'univers, m'a montré le chemin. Sa passion pour hier m'aide à croire en demain. Frison roche, un soupçon d'Archimède, un grain de moitié cire et d'Henri de mon frère. Le cœur émerveillé, anonyme et modeste, il m'apprend à aimer par la beauté du geste. Les fricheurs de l'azur, l'œil toujours en alerte. Il marche à l'aventure, là à la découverte, devant l'immensité qu'il nous reste à connaître. À quoi sert de rêver si ce n'est pour transmettre? Lorsque l'élève est prêt, arrive alors le maître. Un bleu de frison roche, un soupçon d'Archimède. Et d'Henri de mon frère, le cœur émerveillé, anonyme et modeste, il m'apprend à aimer par la beauté du geste.
Boomerang sur France Inter. Augusta Trapenard.
Alors ne comptez pas sur moi pour vous dire qu'il n'a plus les cheveux longs, hein, c'est déjà une grande déception. Pour autant, il n'a rien perdu de sa lumière, c'est un lampion, un feu d'artifice, une luciole, un lumignon dans son regard bleu pâle de monarque, de conte de fées, dans son cheveu blanc et doux, de berger bienfaiteur, dans son profil de patriarche débonnaire. Il y a de la bonté, de la chaleur, de la générosité, plus besoin de chauffage central, de centrale à charbon ou autre centrale nucléaire. Il est là, providentiel, zéro déchet, avec son pull bleu clair et sa petite chemise bleue, son casque vissé sur les oreilles. Yves Dutheil, invité de Boomerang ce matin pour la sortie vendredi de son nouvel album Respect. Et pour célébrer en passant 45 ans de carrière aussi, c'était l'année dernière, une carrière orientée, Yves, aussi bien par la musique que par les mots et par un amour de la langue française. Comment elle est née cette passion qui vous a d'ailleurs valu une récompense de l'Académie française il y a 33 ans pour la langue de chez nous? Cette passion pour la langue française.
Ma mère était championne de mots croisés.
Oh.
Et donc, j'ai connu toutes ces définitions extraordinaires, Max Favalelli et toutes les passions qui l'animaient. Il n'y avait pas un repas où un mot ne jaillissait pas à un moment et que ma mère sorte de table, aille chercher une encyclopédie, un dictionnaire, un lexique, et cherche le mot et nous explique l'origine, l'étymologie, pourquoi ça s'écrit comme ça.
C'est un peu maître hibou, votre mère, ça.
Ah oui,
tout,
oui, ouais. Oui, c'était pénible d'ailleurs au bout d'un moment, mais en même temps, il m'est resté de ça une passion pour les mots.
Et du coup, j'imagine que vous gardez un œil vigilant sur les évolutions de notre langue. Comment est-ce qu'il se porte le français pour vous lorsque vous écoutez les gens parler dans la rue? Qu'est-ce que vous entendez?
Ben, jusqu'à il y a quelques temps, pas très longtemps, je me disais, il y a un langage de la rue, mais il y a aussi un langage des livres, il y a un langage de l'aviation, il y a un langage de l'industrie, etc. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une déperdition, très honnêtement, les SMS, etc. Il y a une déperdition de langage et j'ai vu récemment une émission extraordinaire, un film qui s'appelle « À voix haute »
oui,
et qui raconte en fait l'expérience de jeunes de banlieue dont on attendrait tout sauf ça, qui réalisent le pouvoir de la parole et qui décident de s'inscrire au concours Eloquentia de Saint-Denis et de le préparer. Et on vit les 6 semaines de préparation et on voit ces jeunes qui s'expriment avec les mains, qui ont très peu de mots, qui ont le langage de banlieue, etc. Et qui peu à peu maîtrisent la parole et évoluent dans leur façon de s'adresser aux autres. Et il y en a un qui gagne le concours à la fin et c'est prodigieux.
On avait reçu à l'occasion de la sortie de ce film Stéphane de Freitas, son réalisateur, à voix haute, à voir évidemment si les auditeurs de France Inter de Boomerang ne l'ont pas encore vu. Film incroyable. Si vous deviez réécrire, Yves Dutheil, la langue de chez nous version 2018, quelle modification est-ce que vous apporteriez?
Aucune.
À votre chanson? Aucune.
Non, parce que c'était simplement pour dire que il y a un écrin de notre culture, de notre façon de penser. C'est la langue de chez nous qui nous identifie, mais qui est quelque chose de vivant. Moi, j'ai jamais été protecteur de la langue française comme un mur d'enceinte.
Cette chanson en témoigne. Enfin,
c'est une ouverture. C'est une ouverture vers le Québec, mais vers tous les endroits du monde où le français minoritaire existe.
Mais on comprend, en vous entendant, quand même qu'une chanson, c'est d'abord un travail sur la langue, que c'est d'abord un texte.
Maintenant, oui. Par bonheur, je sais faire les deux, c'est-à-dire écrire d'abord une musique, mettre un texte dessus, ou l'inverse. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre d'écrire ma parole, et puis ensuite de dire dans quel ton, sur quelle tonalité je vais la dire. Et la musique a finalement une espèce de liberté sur quand on la pose sur des mots que j'ai découvertes et qui m'émerveillent.
Trouver les mots, ça a toujours été une évidence?
Oui, mais alors la poésie, c'est pas des mots jolis, c'est des mots justes. C'est le mot qui fait naître l'image et l'émotion chez celui d'en face. C'est lui qu'on vise. C'est l'efficacité. C'est la trouvaille, l'association d'une allitération, un son, une ressemblance entre deux mots. C'est pour ça que les gens qui écrivent en général sont des rois du calembour, parce que c'est une tournure d'esprit. Et là, l'écriture, pour moi, c'est quelque chose de je suis capable de rester un mois sur un texte.
Ça veut dire que ça a pu être très difficile, du coup, de trouver précisément les mots? Ça veut dire que ça vous est arrivé souvent de ne pas les trouver, de continuer à chercher?
Non, parce que j'ai perdu cette angoisse de la page blanche en m'interdisant de ne pas y arriver. Donc, c'est plus une question que je me pose. De toute façon, je vais y arriver.
C'est une philosophie de vie, ça, Yves Dutheil.
Oui, 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 tout à fait.
Quelles sont les chansons qui ont été le plus difficiles à écrire?
Pour que tu ne meures pas. Où j'écrivais mon amour pour mon épouse qui était malade. Et je voulais la sauver. Et je disais tout ce que je voudrais faire pour qu'elle ne meure pas. Et l'émotion est intacte à chaque fois que je la chante. C'est une des chansons les plus fortes en émotion pour moi, sur scène. Il serait pas question de l'abandonner, cette chanson, parce qu'elle a une profondeur, une émotion que je ressens à chaque fois complètement quand je la chante.
Surtout, elle a marché, puisque votre épouse est dans la régie.
Ça a marché.
Quel travail est-ce que c'est ? Par quelles étapes est-ce que vous passez quand vous écrivez une chanson ? Il faut nous raconter.
D'abord, je me lève tôt le matin. J'ai vu cette exposition de Brassens à la Cité de la Musique qui avait été organisée par Clémentine de Roudy, qui est la petite fille de Doineau, qui a un talent extraordinaire de commissaire pour faire des expos. Brassens se levait à 5h du matin pour travailler. Moi, jusque-là, je travaillais le soir et puis plombé par la fatigue, je m'endormais, etc. J'ai remarqué que le matin, on a une fraîcheur d'esprit extraordinaire, c'est pas du tout la même que le soir. Donc je me suis levé tôt. Et là, sans avoir la moindre idée de ce que je vais écrire, il y a toujours quelque chose.
Mais ça date de quand ce changement de programme ?
Il y a à peu près 6 ou 7 ans. Et depuis, je travaille le matin. Et donc, je ne sais pas ce que je vais écrire, mais je cherche et je trouve toujours.
Qu'est-ce que c'est un bon texte pour vous ?
C'est un texte émouvant. Un texte où je vais chercher plus profondément que le fait de savoir écrire. Je sais que je sais écrire. Et c'est un piège. Parce que si j'écris comme le fait de savoir écrire, je vais pas aller chercher au fond, dans mes tripes, ce qui va toucher le public.
Et comment vous le savez, quand ça touche ?
Je ne le sais pas. J'ai écrit et puis après, je prends le recul, c'est-à-dire c'est l'épreuve du lendemain. Quand je relis ce que j'ai écrit, soit ça me surprend, soit ça me déçoit. Et donc, je retravaille. J'ai le premier jet, et puis après, je retravaille mes textes, mais je les retravaille la version 12, la version 21, la version... Ce qui fait que je ne peux apprendre mes chansons par cœur qu'en toute fin de chaîne, parce que sinon, j'ai toutes les modifications qui se mélangent. C'est un énorme travail, mais en même temps, je suis très heureux quand j'écris. Donc, c'est pas un travail lourd. Et la chanson, à l'arrivée... D'abord, ça doit être une belle chanson, mais ça doit être léger, même si le sujet est grave. Quand j'ai écrit la chanson qui s'appelle « Armée d'amour » dans l'album, disant « De nos sangs mêlés sur le sol, on voit naître un nouveau symbole, un flot d'amour en résistance, fait de douleur et d'espérance. » Trouver les mots pour dire des choses aussi graves exige que ça tienne la route et que ça résiste à l'épreuve, non pas du lendemain, mais du mois d'après, puis de l'année d'après, et avec tout ce qui se sera passé entre-temps. C'est-à-dire que c'est vraiment un exercice passionnant.
Il y a une belle chanson, un bon texte de chanson que vous nous faites la joie de nous interpréter ce matin, Yves Dutheil. Vous avez une guitare qui s'apprête à vous démanger à votre droite, que vous êtes en train de saisir. Cette chanson, c'est « On ne dit jamais aux gens qu'on aime, qu'on les aime ». C'est une chanson de Louis Chédid.
Ah bah oui, elle a une histoire dans notre histoire. D'abord parce que... Le hasard veut que j'ai été en classe avec Louis Chédid. On était en terminale ensemble. Mais c'est pas que ça. Je pense que c'est aussi l'estime que j'ai pour ce qu'il écrit. Parce que je trouve qu'il a des fulgurances incroyables. Et faire simple en matière de chanson, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et il a ce talent. Et en plus, on s'est servi de cette chanson pour fêter un des anniversaires importants de Noël. En 3 jours, on a monté une vidéo. Une vidéo à travers le monde, de l'Inde, du Canada où j'étais, de tous les amis. On a fait chacun un tout petit temps de vidéo et ça a donné quelque chose autour de cette chanson. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ses parents, ses amis, ses hommes, ses femmes, on affectionne. Avec lesquels on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, y a comme une chaleur. Mais de là on fait des phrases, trop de pudeur, trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on ne serait même pas la moitié de nous-mêmes.
avant de nous dire au revoir, marcher à l'ombre, avant que sur notre histoire le rideau tombe. Je me déclarais à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait l'un sombre sans vous autour. Vous tous autour. On dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elle, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Qu'y a-t-il de plus important? La raison ou les sentiments? On dit jamais assez aux gens qu'on aime. On leur dit jamais assez qu'on les aime. Je vous aime.
On ne dit jamais aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Yves Dutheil reprend Louis Chédid dans Boomerang. Évidemment, merci tellement Yves pour l'amour, pour la bienveillance, pour la musique, pour le respect. Respect, c'est le titre de votre nouvel album qui sort vendredi. Vous serez en concert à l'Alhambra à Paris les samedis 20 et dimanche 21 janvier, mais aussi dans toute la France, à Reims, Marseille, Saint-Égrève ou Saint-Marcel.